France Musique. Musicopolis. Louise Fusil, mémoire d'une chanteuse sous la Révolution. La Révolution française, disons-le tout de go, n'est pas un grand sujet dans les histoires de la musique. Et pourtant, c'est une période terriblement riche dans le paysage musical de notre pays. Une période où évolue à grande vitesse la conception de la musique, de l'orchestre, du chœur, de l'opéra, de l'enseignement et même du rôle de l'artiste. Les citoyens veulent se divertir, les spectacles font le plein. Les fêtes se multiplient, chanteurs et musiciens sont sollicités. Mais rien n'est jamais sûr et bien fou celui qui ferait des plans sur la comète. Voici comment Louise Fusil commence ses souvenirs. Quelle destinée plus bizarre que la mienne! Élevée dans une ville de province, je devais y passer une vie tranquille et calme. La Révolution change tout à coup mon existence, me jette au milieu d'un monde nouveau et dans un âge où l'on ne comprend pas encore le monde. Fusil, née au début des années 1770, publie ses souvenirs d'une actrice en 1841. Née dans une famille d'acteurs, les Fleury, mariée à un acteur, Fusil, elle-même a fait carrière comme chanteuse et actrice. Le plus intéressant dans ses souvenirs est peut-être tout ce qu'elle nous dit du goût musical et des musiciens de son époque. Alors reprenons dès le début. Louise Fusil raconte qu'après avoir passé son enfance à Metz, elle arrive à Paris en 1788, à 14 ans, sous la responsabilité de Madame Saint-Huberti, une cousine. Madame Saint-Huberti est l'une des plus célèbres chanteuses de la fin du XVIIIe siècle, connue dans toute l'Europe. Lorsqu'en passant par Metz, dans sa famille, elle entend la toute jeune Louise, elle lui trouve une voix extraordinaire pour son âge et elle la fait venir à Paris. Elle compte la confier à des grands maîtres pour faire de l'adolescente une bonne musicienne. À Paris, la jeune Louise découvre le foisonnement des spectacles. Au Théâtre Français, Louise n'est pas impressionnée par Le Bourgeois Gentilhomme. Elle avait déjà vu la pièce à Metz. En revanche, l'opéra est pour elle une véritable féerie. « Je crus y voir réaliser, écrit-elle, tout ce que j'avais lu dans les mille et une nuits. Je n'aperçus plus rien de ce qui se passait autour de moi. Et mon étonnement, mon admiration, donnèrent la comédie à tous mes voisins, qui s'amusaient beaucoup de mon inaltérable attention et des questions que j'adressais dans l'entracte aux personnes qui m'accompagnaient. On jouait Iphigénie en Olyde. » Au début de la Révolution, l'Opéra de Paris continue à donner ses spectacles, dans sa salle de la Porte Saint-Martin. C'est là que Madame Huberti se fait applaudir et que Louise Fusil vient l'écouter. Le Mercure de France dit de la chanteuse qu'elle était dans tous ses rôles au-dessus des éloges et même des critiques. Ou encore, qu'il est impossible de montrer une sensibilité plus vraie, plus profonde que Madame Saint-Huberti, de concevoir un rôle avec une intelligence plus parfaite. Parmi ses incarnations les plus marquantes, celle de Didon dans l'opéra de Piccini. Une réussite qui fait dire au Mercure « Les ennemis de Monsieur Piccini n'ont pas manqué d'attribuer à Madame Saint-Huberti tout le succès de Didon ». Le talent de Madame Saint-Huberti, nous dit Louise Fusil dans ses souvenirs, était bien extraordinaire, puisqu'à l'âge que j'avais alors, j'en avais été frappée au point d'imiter parfaitement sa manière de dire le chant. On s'amusait souvent à me faire placer derrière un paravent pour compléter l'illusion. Elle prononçait d'une façon qui paraîtrait exagérée, aujourd'hui que si peu de chanteurs font entendre les paroles. Mais comme elle le disait elle-même, il le fallait pour se faire comprendre dans cet immense vaisseau où la voix doit porter dans toutes les parties de la salle. Cela donnait d'ailleurs une grande énergie à son jeu. L'expression de sa physionomie était admirable. Elle se faisait applaudir sans parler, dans Alceste, lorsqu'elle écoutait la voix qui lui dit « Le roi doit mourir aujourd'hui si quelque autre à la mort ne se livre pour lui ». C'est en regardant et en écoutant Madame Saint-Huberti que Louise Fusil forme son goût et son futur métier de chanteuse et d'actrice. Elle la voit dans le rôle principal de Didon de Piccini ou dans celui d'Alceste de Gluck. À cette époque, les grands acteurs de théâtre se révèlent dans les personnages tragiques et la Saint-Huberti fait aussi bien dans ce genre que Monvel ou Talma, les plus célèbres d'entre eux. Ariane abandonnée, nous dit Louise Fusil, était aussi un des rôles où elle excellait. Et dans Colette, du devin du village, c'était la petite fille des champs. Elle ne faisait pas de grands bras pour exprimer sa douleur, elle ne venait pas se poser devant le public pour la lui raconter, elle pleurait en chantant. On ne se serait jamais imaginé que ce fût cette même femme, si imposante dans La Reine de Carthage et si déchirante dans Ariane.
Tu
Voilà donc les ouvrages qu'on entend juste avant et au début de la Révolution, selon Louise Fusil. Elle cite ceux de Rousseau, de Piccinni et Sacchini, de Gluck, de Grétry ou de Gossec. Et ce n'est pas seulement à Paris, puisque la jeune fille s'est éloignée de la capitale à la demande de son père qui s'inquiète des événements. Elle passe quelque temps à Toulouse, toujours avec Madame Saint-Huberti. Là, raconte Louise, elle me fit jouer quelques petits rôles dans des pièces qui furent montées à cet effet, telles que la nymphe des eaux dans Armide, la sœur de Didon et l'amour dans Orphée. Les indications sur les talents et les différentes techniques des chanteurs de la fin du XVIIIe siècle abondent dans les souvenirs d'une actrice de Louise Fusil. De même que des considérations plus pragmatiques qui ne sont pas souvent mentionnées dans les histoires de la musique. Les chanteuses de cette époque, écrit-elle, étaient moins payées qu'à présent. Cependant, celles de la bonne école étaient fort recherchées. Gluck, Sacchini, Piccinni avaient opéré une révolution dans la musique. Les méthodes italiennes et allemandes commençaient à faire d'autant plus de progrès que le théâtre de Monsieur, où l'on avait fait venir des chanteurs italiens, était en grande faveur. C'est à cette école que se sont formés Gara, Martin, Madame Sio, Rosine. À propos de la technique du chant dans les différents pays, Louise Fusil nous donne quelques précisions inattendues. Les Italiens, assure-t-elle, conservent mieux que nous la fraîcheur de la voix dans un âge avancé. Madame Mara avait plus de 60 ans lorsque j'ai chanté avec elle le beau duo de Mithridate. Ses moyens étaient encore d'une grande étendue et sa voix moelleuse et légère. Je lui ai l'obligation de m'avoir donné de très bons conseils et j'ai eu en elle un excellent modèle. Mais la personne la plus étonnante que j'ai entendue dans ce genre-là, c'est la femme du vieux Piccinni. Il rassemblait tous les jeudis ses élèves qui, réunis à sa famille, formaient un concert nombreux et il faisait exécuter la plupart du temps des morceaux de ses opéras. Attis était de ses compositions celle qu'il préférait. Un jour, qu'une de ses chanteuses lui manquait, raconte Louise Fusil dans ses souvenirs à propos de son maître Niccolo Piccini, il appela Madame Piccini et la pria de la remplacer. Nous étions là, toutes jeunes femmes, et il ne nous fallut rien moins que le respect et la vénération que nous portions à cette famille dans son chef pour contenir le fou rire qui nous gagnait. Madame Piccini avait 75 ans. Elle était d'une laideur plus que permise même à cet âge. Bossue, le col court, un embonpoint très prononcé, et par-dessus tous ces avantages, elle avait une toilette qui aurait pu la faire prendre pour la cuisinière de son mari. Ce qu'elle était bien un peu par le fait, car sans cesse occupée de son ménage, on ne la voyait jamais dans le salon ni dans la salle d'études. Mariée fort jeune, comme toutes les Italiennes, elle avait eu un si grand nombre d'enfants qu'ils en étaient déjà à la troisième génération. Madame Piccini ôta le tablier dans lequel elle avait des cornichons qu'elle allait mettre au vinaigre. Et elle s'approcha du piano de son mari. Lorsqu'elle commença le solo, il s'échappa de cette masse informe des sons si frais, si suaves, que pas une de ses filles, de ses petites filles, ni de nous, n'eussent pu en faire entendre de semblables. Nous restâmes en extase. De temps en temps, je mettais ma main sur mes yeux pour compléter l'illusion. Il me semblait entendre le chant des Vierges de Sion. Elle continua ainsi toute la soirée. « Eh bien, nous dit Piccini, que dites-vous de ma vieille Sibylle ?» Il y a des choses qui passent très vite et qui s'oublient à toute vitesse, ce sont bien les modes en toutes les matières. Louise Fusil, dans ses souvenirs d'une actrice, nous rappelle celle des débuts de la Révolution. En 1790, se souvient-elle, la littérature, les arts, les modes, tout portait l'empreinte de ce premier enthousiasme qui faisait croire à ces jeunes gens que la grandeur romaine allait renaître. On ne jouait au théâtre français Richelieu que les tragédies de Brutus, La mort de César, ou d'autres ouvrages nouveaux dans le même genre, Caius Gracchus, Épicaris et Néron, à l'opéra Miltiade à Marathon, Horatius Coclès. Thank you. Il fallait bien s'instruire, rappelle Louise Fusil, pour comprendre ce qui se passait autour de soi. Les femmes s'occupaient de l'histoire, dont beaucoup parmi elles, moi la première, se souvenaient à peine d'avoir fait quelques extraits dans leurs études premières. Mais quand les proscriptions de Brutus et de Sylla n'eurent que trop d'imitateurs, nous apprîmes ce siècle par un triste parallèle. Les années 1792, 93, 94 surtout, par les malheurs qu'elles traînaient à leur suite, portaient notre esprit vers l'histoire romaine. Date très importante de la Révolution qui a eu de nombreuses conséquences sur la vie musicale française est celle du 13 janvier 1791 qui voit la proclamation de la liberté des théâtres. C'en est fait des privilèges qui empêchaient les différentes scènes de représenter ce qu'elles voulaient. Louise Fusil écrit dans ses souvenirs « Le fameux décret dont il est question depuis longtemps vient de passer. Vous ne pouvez vous faire une idée de la révolution que cela a produit. » La gaze derrière laquelle on jouait et l'on chantait sur un petit théâtre du boulevard a été déchirée par des jeunes gens. Les acteurs du théâtre du Beaujolais, où l'on mimait sur la scène tandis que l'on chantait dans la coulisse, se sont mis à parler et à chanter eux-mêmes. Enfin, ils sont tous comme des fous. Le final de l'Odoïska de Cherubini. Les éléments, le cercle de l'harmonie, dirigé par Jérémy Rohrer. Tout le programme, la réécoute et le podcast sont sur francemusique.fr sur la page Musicopolis. Notre petite équipe était composée aujourd'hui de Philippe Petit pour la réalisation, Catherine Déreté pour le mixage et Clément Diaz pour la recherche et le site.
À réécouter sur francemusique.fr.